Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Allons dans notre Bible ce matin, au chapitre 4 de Jean. Je veux relire notre texte de cette courte série sur l'adoration, au chapitre 4, les versets 20 à 24. Le passage fait partie d'une conversation entre Jésus-Christ et une femme samaritaine. Elle dit au verset 20, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un a dit que l'adoration est à la vie chrétienne ce que le ressort principal est à une montre. Adorer Dieu est le noyau même de la réponse du chrétien, le cœur même d'une activité chrétienne. Et adorer, c'est simplement reconnaître la dignité, la valeur, la majesté, l'honneur et la gloire de Dieu. En fait, le mot anglais de « worship » vient d'un vieux mot anglo-saxon « worship », le fait d'avoir de la valeur. Le devoir principal de tout croyant est de voir la valeur de Dieu et de lui donner l'honneur et la gloire dus à son nom. Et comme nous l'avons vu au verset 2 du psaume 45, le mot qui fait ici référence à l'adoration signifie « bouillonner en débordant ». Et nous avons vu que lorsque notre cœur est réchauffé par la connaissance de Dieu, il devient très chaud, il se passionne, et le débordement est l'adoration. Alors, en attirant notre attention au chapitre 4 de Jean, nous nous sommes concentrés sur le passage le plus important du Nouveau Testament sur l'adoration. Et pour commencer, nous avons simplement souligné un point majeur, qui est l'importance de l'adoration. Ce point n'est pas étranger à ce texte. En fait, il en est inséparable. Si vous remarquez, il est dit à la fin du verset 23, « Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. L'adoration est si importante que c'est ce que Dieu recherche. Dieu fait l'effort de gagner des adorateurs. » En fait, c'est l'activité la plus importante qui puisse occuper un homme, l'adoration de Dieu. Alors, nous avons déjà parlé de l'importance de l'adoration. Je vous ai suggéré qu'il y a quatre raisons à cette importance. Je voudrais réviser celles que nous avons vues, puis continuer. Premièrement, l'adoration est importante, car elle domine dans toute l'Écriture. Où que vous alliez dans la Bible, vous trouverez qu'elle enjoint d'adorer. L'adoration est enseignée. Elle est dans toutes les Écritures. Et dimanche dernier, nous avons examiné, par exemple, Exode 20, où le premier des 10 commandements, qui reflète la loi de Dieu, est un appel à adorer. Dans Matthieu 22, où le Seigneur Jésus-Christ est confronté à la question sur le premier commandement, il répond par un ordre d'adorer. Nous avons parlé du tabernacle et du temple comme symbole de l'importance de l'adoration parmi le peuple de Dieu. Nous avons parlé des patriarches qui bâtissaient des autels pour adorer Dieu, et ça remonte aussi loin même que Caïn et Abel. Ensuite, on est allé dans le Nouveau Testament pour examiner Romains 12, 1 et 2, et 1 Pierre 2, 5. Et en regardant ces deux textes bibliques, nous avons vu que, comme chrétiens, nous sommes appelés à une adoration spirituelle que Dieu puisse accepter, des sacrifices spirituels acceptables devant Dieu. Donc, de tout temps, de Caïn à l'Église, tous ceux qui s'identifient avec les saints de Dieu sont appelés à adorer, sont devenus des adorateurs. Ainsi donc, nous disons que l'adoration est importante par le fait qu'elle domine la vie et les temps des Écritures. Deuxièmement, l'adoration est importante parce que la destinée est touchée par l'adoration. Ce n'est pas qu'une affaire spirituelle, c'est une affaire de destinée. La manière d'adorer d'une personne est un signal de sa destinée éternelle. Et souvenez-vous, on a dit qu'il y avait deux sortes d'adoration, l'inacceptable et l'acceptable. Celui qui adore de manière inacceptable, Dieu le rejette. Celui qui adore de manière acceptable, Dieu le reçoit. Mais je vous ai également dit qu'il y a quatre sortes d'adoration inacceptable. On l'a vu en premier. Il y a l'adoration de faux dieux, inacceptable. Il y a l'adoration du vrai Dieu, sous la mauvaise forme, qui réduit Dieu à une idole. Ensuite, il y a l'adoration du vrai Dieu, d'une façon autoproclamée. Et puis, il y a l'adoration du vrai Dieu, avec la mauvaise attitude. Toutes ces adorations sont inacceptables. Adorer un faux Dieu, adorer le vrai Dieu sous une mauvaise forme, adorer le vrai Dieu d'une manière autoproclamée, ou adorer le vrai Dieu avec une mauvaise attitude, toutes sont fausses. Cain adorait le vrai Dieu, mais on lui avait dit d'apporter le sacrifice d'un animal. Et quand il a porté le fruit de la terre qu'il avait travaillé, il venait adorer d'une fausse manière, qu'il avait élaborée lui-même, et qui était inacceptable. Ensuite, comme nous l'avons vu la dernière fois, au chapitre 1 de Malachie, au chapitre 5 d'Amos, au chapitre 6 d'Osée, et au chapitre 12 d'Ésaïe, le peuple d'Israël adorait souvent Dieu sous la bonne forme et d'une manière correcte, mais avec la mauvaise attitude, et c'était également inacceptable. L'adoration inacceptable reflète un destin séparé de Dieu. Or, j'ai réfléchi cette semaine à des exemples d'adoration inacceptable que je pourrais vous donner. Je pourrais en utiliser beaucoup, mais j'ai choisi celui-ci car je pense que c'est important pour ce sujet actuellement. En 1717, un groupe s'est mis en place, généralement connu sous le nom de loge maçonnique, ou des francs-maçons, bien qu'ils ne souhaitent pas être connus comme une religion. C'est de fait, par définition, clairement une religion. Et je pense que c'est une illustration classique d'une adoration inacceptable. Le Iowa Quarterly Bulletin, en avril 1917, disait ceci, et c'est leur propre périodique, je cite, « La franc-maçonnerie est une institution divinement mise en place, conçue pour rapprocher les hommes de Dieu, pour leur donner une idée plus claire de leur relation à Dieu en tant que leur Père Céleste et aux hommes en tant que leurs frères, ainsi que de la destinée ultime de l'âme humaine. » Fin de citation. Donc c'est une religion. Tout ce qui se dit institution divinement mise en place, conçue pour attirer les hommes à Dieu, pour leur donner une idée claire de leur relation à Dieu, aux hommes, et de l'ultime destinée de leur âme humaine, est une religion. La franc-maçonnerie est une religion, bien qu'ils ne veuillent pas l'admettre. Alors, est-ce qu'ils adorent Dieu? Ils disent que oui. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Ils disent qu'ils adorent le vrai Dieu sous la forme correcte, de la bonne manière, avec une attitude sincère. Albert Pic, qui a été appelé par des collègues francs-maçons, un des leurs parmi les plus distingués que le monde occidental a jamais produit, a écrit un de leurs livres très important, appelé « Morals and Dogma ». C'est si important qu'il figure dans leur édition de la Bible. Ils ont leur propre Bible, connue comme la Bible de Hertel. Voici ce qu'il a écrit. « La franc-maçonnerie révère tous les grands réformateurs. Elle voit en Moïse, le législateur des Juifs, en Confucius et Zoroastre, en Jésus de Nazareth, et dans l'iconoclaste d'Arabie, de grands enseignants de moralité. » Et d'éminents réformateurs, si ce n'est plus, et autorise tout frère de l'ordre à attribuer à chacun toute caractéristique supérieure, même divine, que son credo et sa vérité demandent. Nous ne sous-estimons pas l'importance de chaque vérité. Nous ne prononçons aucune parole qui pourrait être perçue comme irrévérencieuse par qui que ce soit, d'une foi quelle que ce soit. Nous ne disons pas aux musulmans que ce n'est important que pour lui de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est totalement sans importance que Mahomet soit son prophète, ou pas. Nous ne disons pas à l'hébreu que le Messie qu'il attend est né à Bethléem, il y a près de 2000 ans, ni qu'il est un hérétique, parce qu'il ne veut pas le croire. Et nous ne disons pas plus aux chrétiens sincères que Jésus de Nazareth n'était qu'un homme comme nous, ou que son histoire n'était que la renaissance irréelle d'une ancienne légende. Faire cela dépasse les limites de notre juridiction. La franc-maçonnerie, nom d'une époque, appartient à tous les temps. Non d'une religion, elle trouve en toutes ses grandes vérités. Pour tout franc-maçon, il y a un Dieu suprême, infini en bonté, en sagesse, en prévoyance, en justice et bienveillance, créateur, dispensateur et préservateur de toutes choses. Comment ou par quel intermédiaire il crée et agit et de quelle manière il se révèle et se manifeste. La franc-maçonnerie laisse aux confessions de foi et aux religions le soin de l'investiguer. Fin de citation. Autrement dit, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais on peut décider qui il est, ce qu'il veut et comment l'atteindre. Ensuite, ils prétendent avoir toutes ces paroles secrètes, et on leur dit, lorsqu'ils entrent dans la franc-maçonnerie, qu'ils ont l'interdiction de dire certaines paroles. Et si vous avez connu un de leurs membres, vous savez qu'ils ne révéleront jamais ces paroles, mais je voudrais vous les révéler ce matin. Le mot le plus sacré donné aux maîtres francs-maçons, quand il se trouve à ce qu'ils appellent les 5 points de communion, il se tient avec celui qui l'initie à la classe du maître. Il se tient orteil contre orteil, genou contre genou, thorax contre thorax, joue contre joue, et bouche contre oreille. Et on lui murmure à l'oreille, « Ma'abon ». Et ce mot sacré est censé être le nom de Dieu. Dans un autre ordre des francs-maçons, les chevaliers templiers, c'est le nom Yabulon, dont ils disent que c'est la trinité divine. Ya de Yahvé, Bul de Baal, et non du nom du dieu soleil égyptien. Peak, dans ses Morals, un dogma, dit encore, pour atteindre le salut, le franc-maçon doit d'abord atteindre une conviction solide, basée sur la raison, d'avoir en lui-même une nature spirituelle, une âme qui ne mourra pas quand le corps sera dissous, mais qui continuera d'exister et d'avancer vers la perfection au cours des temps de l'éternité, et de voir toujours plus clairement, en s'approchant de Dieu, la lumière de la présence divine. Fin de citation. C'est un jargon qui ne veut rien dire honnêtement. Dans la Bible maçonnique, il est dit, à l'ouverture de la loge, le grand architecte de l'univers doit être adoré. C'est ce qu'ils disent. Le grand architecte de l'univers doit être adoré. Ensuite, dit Pic, devant l'autel maçonnique, le chrétien, l'hébreu, le musulman, le brahmane et les disciples de Confucius et de Zoroastre peuvent s'assembler en frères et s'unir dans la prière au Dieu unique. L'aumônier de la loge maçonnique, qui prie en tant que voix de la loge, ne prie pas au nom du charpentier de Nazareth, ou au nom de Yahvé, ou au nom d'Allah. Il prie au nom du grand artisan, ou du grand architecte de l'univers. Sous ce titre, les hommes de toute foi peuvent se retrouver, avec chacun sa propre divinité. L'absence de mention de toute divinité par son nom n'est pas un déni, mais simplement une pratique de courtoisie attentionnée, afin que tous ceux pour qui la prière est offerte puissent entendre le nom de sa propre divinité dans le titre inclusif de grand architecte. Fin des citations. Bon, je pense que vous comprenez que cela suffit, franchement, pour mettre n'importe qui mal à l'aise, car c'est une fausse religion satanique. Elle est inacceptable. Il existe des milliers de sortes d'adorations inacceptables comme celle-ci, et ça détermine la destinée. On peut penser qu'on adore Dieu, mais ce n'est pas vrai. Dans Acte 17, à la colline de Mars, on a une illustration classique. Classique. Ils avaient une idole du Dieu inconnu, et Paul dit, « Vous avez l'idée juste, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous adorez dans quoi ? L'ignorance. Maintenant, laissez-moi vous parler de lui. Vous n'avez aucun intérêt à adorer Dieu tel que vous l'imaginez. C'est ainsi qu'on dit à ceux qui viennent aux alcooliques anonymes qu'on doit avoir une relation avec Dieu telle que vous le percevez. Écoutez, comme vous pensez qu'il est, ne veut rien dire, n'a de sens que ce qu'il est en réalité. Adoration inacceptable, ce peut être l'adoration flagrante, violente de l'argent. Elle peut être la création de fausses divinités, ou elle peut être votre prétendue adoration du vrai Dieu, mais d'une manière inacceptable, ce qui fait que vous ne l'adorez pas du tout. Maintenant, laissez-moi parler de l'adoration acceptable, et voici à quoi je voudrais que vous pensiez particulièrement. Votre destinée est déterminée par l'adoration acceptable. Vous vous signalez comme croyant par l'adoration acceptable. Le but du salut est de créer des adorateurs authentiques, et je pense qu'en y faisant allusion dans l'un de mes messages précédents, j'ai dit qu'au psaume 24, versets 3 à 6, se trouve peut-être la plus belle image de l'Ancien Testament d'un adorateur acceptable. Il est dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans son lieu saint ? Qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu ? Qui a le droit de venir à Dieu ? Qui a le droit de s'approcher ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tu ne peux pas approcher sans avoir été lavé. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont le cœur pur, des mains pures, des motivations honnêtes, les purs, les justes et les saints. Or, comment peux-tu le devenir? Tu dois être racheté. Alors la rédemption, c'est créer de vrais adorateurs qui adorent Dieu de manière acceptable. Maintenant, revenez au texte biblique par lequel nous avons terminé la dernière fois. Hébreux 12, 28. Et je veux reprendre depuis là. Hébreux 12, 28. L'auteur des Hébreux dit que nous recevons un royaume inébranlable, différent de la terre qui a été ébranlée. L'image ici est l'ébranlement du mont Sinaï. Mais il dit que nous avons un royaume qu'on ne peut faire bouger, qu'on ne peut ébranler. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et le mot pour rendre un culte ici est latreo, d'où nous avons liturgie. Il signifie adorer. Ayons donc la grâce qui nous permet d'adorer Dieu de manière acceptable. Notez ce mot. C'est le mot que nous cherchons. L'adoration acceptable. Ensuite, il énumère deux mots-clés. Avec respect et piété. Dans la colombe, nous lisons « avec piété et avec crainte » pour ces deux mots, dans cet ordre. Car notre Dieu est en effet un feu dévorant. Si vous allez adorer Dieu, il y aura au fond de votre cœur un équilibre entre le respect et la crainte. Le respect, dans un sens, est positif. Il affirme la valeur et la qualité de Dieu. La crainte est négative. Elle affirme le jugement, le châtiment, la punition, le feu dévorant du verset 29. Ainsi, le vrai adorateur adore en respectant Dieu, en craignant Dieu. Les deux sont essentiels. Nous devons donc adorer Dieu d'une manière acceptable. C'est l'ordre du verset 28. Si nous avons été rachetés, nous sommes les vrais adorateurs. Et en tant que vrais adorateurs, nous devons adorer de manière acceptable. Laissez-moi vous dire à ce stade que je crois que si vous êtes un vrai adorateur, vous le ferez. Mais pas tout le temps, et pas toujours aussi parfaitement qu'il le faudrait. Car il y a encore ce péché qui est en nous. Exact. Un vrai chrétien est un vrai adorateur. Mais on n'adore pas toujours aussi authentiquement qu'on le devrait, ni avec autant de cohérence. Alors, on est appelé ici à adorer de manière acceptable, en affirmant positivement qui il est et toute sa gloire, et en affirmant négativement le fait qu'il est un feu dévorant, et que nous avons une raison de craindre si nous ne l'adorons pas de manière acceptable. Donc, l'adoration acceptable est ce qu'il demande de son peuple. Or, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Suivez bien, car je vais vous montrer ce que ça signifie. Ouvrez votre Bible à Romains 14. Et je veux que vous restiez bien concentrés sur ce que nous disons au cours des minutes qui suivent, car tout va tenir en quelques affirmations qui feront une immense différence. Donc, suivez attentivement dans votre Bible. Si vous ne pouvez pas les trouver assez rapidement, écoutez, notez les références. Romains 14, 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Quelle manière? Eh bien, tout ce chapitre parle de ne pas faire tomber le frère faible, de ne pas attrister un frère, de ne pas détruire un frère, ne pas utiliser ta liberté pour le faire tomber. Et il dit ceci, si on sert Christ dans ces domaines, c'est de l'adoration acceptable. Donc l'adoration, c'est tout d'abord une affaire de comment traiter nos frères dans la foi. Vous saisissez? Comment nous traitons les frères? Ça touche à l'adoration. Ça touche à l'adoration. C'est une affaire de glorifier Dieu et de l'honorer. Maintenant, regardez au chapitre 15, le verset 16. Romains 15, 16. Paul ici remercie Dieu évidemment pour la grâce qu'il a appelée au ministère. Puis il fait une déclaration stupéfiante. Il dit, « Je m'acquitte du service de l'Évangile. Pourquoi, Paul ? Afin que les non-juifs soient une offrande agréable. Que veux-tu dire, ceci ? Gagner quelqu'un à Jésus-Christ est de l'adoration acceptable. Paul voyait s'est converti comme des offrandes à Dieu, que Dieu pouvait accepter. N'est-ce pas une belle manière de voir l'évangélisation? Vous gagnez une âme que vous pouvez offrir à Dieu comme un acte d'adoration, sainte et acceptable. Donc l'adoration est la manière dont on traite les chrétiens, et l'adoration, c'est gagner des non-chrétiens. Philippiens 4, 18. Philippiens 4, 18. Et Paul écrit aux Philippiens, en partie pour les remercier pour un don d'argent qu'il lui a envoyé. Il était si heureux qu'il l'ait envoyé, car c'était un bel acte d'amour. Mais il dit au verset 18, J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'aime bien ça. Il dit, « Votre don d'argent, votre don qui a pourvu mes besoins, est devant Dieu, un sacrifice agréable, qui a fait monter à ses narines une agréable odeur. » Écoutez, l'adoration, c'est donner de l'argent pour combler des besoins. C'est de l'adoration. C'est juste. C'est donner de vos ressources aux autres, soutenir les saints, l'œuvre de l'Église et le ministère de Christ. C'est ça, l'adoration. Maintenant, écoutez attentivement. Romains 14. Comment traiter les frères chrétiens? Romains 15. Gagner les non-chrétiens. Philippiens 4. Donner pour pourvoir aux besoins. L'adoration, écoutez bien. L'adoration, c'est partager. C'est la somme de ces trois choses. L'adoration, c'est partager avec d'autres. Partager avec d'autres que vous aimez. Partager avec d'autres l'Évangile. Partager avec d'autres vos ressources. C'est de l'adoration, vous saisissez? L'adoration, c'est ça. Ça exalte Dieu. Ça honore Dieu. Ça glorifie Dieu, car ça le manifeste dans votre vie. Et ça montre que vous lui obéissez. Et ça montre que vous aimez ce qu'il aime. Il aime les saints. Il aime les perdus. Et il aime particulièrement les nécessiteux. C'est ça l'adoration. Maintenant, allez à Éphésiens 5:10. Éphésiens 5:10. C'est encore un texte très, très important. Il dit ceci. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. De nouveau, nous avons ici le langage du sacrifice, le langage des offrandes. Nous avons le langage de l'adoration. Et quel est le sujet ici? Verset 8. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité, colombe, qui manifeste ce qui est agréable. Et voici ce qu'il dit. Si votre vie montre de la bonté, de la justice et de la vérité, alors vous êtes acceptable. Donc l'adoration, une offrande authentique à Dieu, c'est la justice, la bonté, la vérité. C'est ça la sainteté personnelle, la vertu personnelle. Maintenant revenez à Philippiens, chapitre 1, verset 11. Que je vous montre un autre texte biblique. Philippiens 1, 11. Rempli du fruit de justice. Nous voilà avec le même concept. La justice et les fruits de la justice, qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et c'est encore une fois ce que nous avons vu en Éphésiens 5, 10, que la justice, la sainteté, la bonté, la piété sont une adoration qui est acceptable. C'est acceptable. Et simplement, pour résumer, 1 Timothée 2:3 qui dit « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il est ?» Fin du verset 2. « Menez une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Vous avez vu, piété et respect, justice, bonté, vérité, sainteté, c'est de l'adoration. Maintenant, écoutez-moi. Je vous ai donné trois passages de l'Écriture qui montraient l'adoration en tant que partage avec les autres. Je ne vous ai montré que trois passages qui montraient l'adoration liée à notre propre sainteté, notre justice, notre bonté. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est la manière dont vous vivez chaque jour de votre vie. L'adoration est une manière de vivre. Une manière de vivre qui ne manifeste pas seulement une sainteté personnelle et une justice personnelle, mais l'étend à l'amour des frères, à l'annonce aux perdus, et à la disponibilité de toutes nos ressources pour faire face aux besoins. C'est ça l'adoration. Mais laissez-moi vous donner le nec plus ultra, là où tout culmine, dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. Il est dit, et j'aime beaucoup ça, par lui, par Jésus, mentionné au verset 12. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, colombe. Or, c'est vraiment le paroxysme, n'est-ce pas? C'est louer et glorifier Dieu de nos lèvres et le remercier continuellement. C'est ça l'adoration. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons. Nous chantons et nous louons Dieu de tout notre cœur et de nos lèvres nous disons merci. Mais regardez au verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu croit. Prends plaisir. Vous avez vu ça? Écoutez-moi. Dieu veut que vous veniez ici adorer. Il veut que vous soyez ici pour louer son nom, pour glorifier son nom, pour lui dire merci. mais il ne veut pas que vous oubliez que l'adoration est un mode de vie dans lequel vous faites le bien, dans lequel vous partagez avec d'autres. Vous voyez, ces deux versets résument tout ce que je vous ai dit. Et écoutez très attentivement ce que je dis. Si vous pensez que vous pouvez vivre à votre guise et venir ici le dimanche adorer, vous avez tout faux. Vous ne pouvez pas faire ça, car l'adoration ne se fait pas dans le vide. L'adoration ne se met pas en marche par des trucs. Des gens sont venus vers moi en disant que nous devrions avoir des panneaux disant « C'est ici un lieu saint » ou bien « Silence, gardez le silence dans le temple » ou bien « Nous devrions dire aux gens de se taire dès qu'ils entrent » ou bien « Je devrais avoir des clochettes à mon veston pour que lorsque j'arrive, comme le prêtre d'autrefois, vous entendiez leur tintement. Vous sauriez qu'il est temps d'être saint. Écoutez, l'adoration n'est pas quelque chose qu'on stimule par des trucs artificiels. Et s'il vous faut ça, ou un certain genre de musique d'ambiance pour adorer, ce que vous faites n'est pas de l'adoration. Vous n'avez pas besoin de trucs. Je peux adorer Dieu sur une autoroute à l'heure de pointe. Et vous aussi, si votre cœur est dans l'attitude juste. Vous voyez, quand on se réunit dans l'assemblée des saints pour adorer Dieu, si ce n'est pas la prolongation d'une vie d'adoration, on ne peut pas la mettre en route. C'est pourquoi il est dit oui, nous devons nous rassembler collectivement et offrir le sacrifice de louange, avec le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Mais nous ne devons pas oublier de faire le bien et de partager comme un mode de vie, sinon nous ne produirons jamais l'adoration que nous pensions vouloir le dimanche. C'est un mode de vie. Puis-je ajouter ceci? On a aussi besoin du dimanche pour stimuler le reste de la semaine. Exactement. Il est dit dans Hébreux, chapitre 10. Approchons-nous donc de Dieu. Et plus loin, il est dit, écoutez bien, n'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous rassembler pour nous stimuler mutuellement à quoi? À l'amour, c'est-à-dire au partage et aux bonnes œuvres. C'est la justice. Vous devez avoir ça dans le monde, afin de pouvoir adorer. Et vous devez être stimulé à les faire dans l'adoration, afin de les vivre au dehors dans le monde. Vous voyez le cycle. Vous voyez, l'un alimente l'autre. L'un alimente l'autre. Écoutez-moi, vous devez être ici dans la communion de ces saints. Vous devez être ici dans l'assemblée des justes, au sein du temple vivant, là où Dieu demeure parmi son peuple. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'est son peuple, au milieu duquel il demeure. Parce que c'est ici que vous êtes stimulés à aimer et à faire des bonnes œuvres. Et, alors que cette stimulation touche votre âme, vous sortez faire le bien, et vous partagez, et quand vous revenez, il y aura un débordement de louanges, et votre cœur adorera, et remerciera continuellement. Or, si quelque part vous n'êtes pas dans le cycle, mieux vaut y entrer. Vous direz, comment puis-je entrer? Confessez vos péchés, commencez tout de suite. Les gens disent, bon, j'ai tellement de problèmes dans ma vie chrétienne, il semble que je suis... Et vous savez ce que je pense? Je pense qu'à la base, ça se réduit à deux choses. 1. Il n'adore pas 6 jours par semaine par une vie d'adoration. Ou bien, il n'adore pas 1 jour par semaine en se joignant aux saints. Et vous avez besoin des deux. Si vous ne venez qu'à votre convenance, vous n'arriverez jamais à vous reprendre en main, parce que c'est impossible tout seul. Il faut que vous ayez ce stimulant fidèle et constant pour aimer et faire des bonnes œuvres qu'une communauté peut apporter pour influencer votre vie. Et nous vivons dans une société si nonchalante, désinvolte, complaisante, que personne ne prend ce genre d'engagement fidèle et permanent. Alors on se demande pourquoi on ne peut pas se reprendre en main. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de venir vous joindre à l'assemblée qui adore. Je ne dis pas que vous devez venir à l'église de la grâce, mais je vous le dis, il existe une bonne quantité d'églises qui ont un culte le dimanche matin, mais où il n'y a pas d'adoration. Et certaines sont même évangéliques. Elles passent tant de temps à promouvoir leur dernière activité que l'on ne pourrait même pas trouver Dieu au milieu du programme. Mais vous avez besoin d'adorer, car l'adoration devient une stimulation à faire le bien et partager. Et faire le bien signifie que quand vous viendrez ici le dimanche, vous ne devrez pas dire « Super, je me prends en main. Mettons d'autres vêtements pour que je me sente spirituel. » Retournez la situation pour venir adorer. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça n'arrivera pas. Et si vous trouvez difficile d'adorer Dieu en venant ici, ce n'est pas parce que nous n'avons rien stimulé. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'autres trucs. C'est parce que vous ne l'avez pas fait là-dehors. Et cela ne devrait pas exister dans le cours d'une vie d'adoration. Alors l'adoration est essentielle. Elle est essentielle, comme je l'ai dit. Tout d'abord, parce qu'elle domine dans l'Écriture. Et deuxièmement, parce que c'est une affaire de destinée. Laissez-moi vous donner une troisième raison. L'adoration est essentielle parce que c'est le thème majeur de l'univers. C'est le thème majeur de l'univers. C'est le thème majeur des siècles. C'est le thème majeur de l'éternité. Quand Adam et Ève sont créés et mis dans ce monde, ils adorent Dieu. Ils marchent et parlent avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Ils adorent. Ils glorifient son saint nom. Et la chute intervient parce qu'ils ne veulent plus adorer Dieu. C'est ça. Ève choisit d'adorer qui? Qui adore-t-elle? Satan? Adam choisit d'adorer qui? Ève? Et dès qu'il cesse d'adorer Dieu, il tombe. La première division parmi les hommes intervient entre Caïn et Abel. Pourquoi? La division survient à cause de leur manière d'adorer. L'un a porté une offrande acceptable, l'autre un sacrifice inacceptable. Quand les patriarches adoraient Dieu correctement, ils étaient bénis. Quand ils adoraient Dieu de manière inacceptable, ils étaient punis. La nation d'Israël est sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode. Ils ont erré 40 ans dans le désert du Sinaï, jusqu'à la mort de toute une génération. Et la Bible le dit simplement, ils ont erré dans le désert, et ont perdu la vie, sans entrer dans le pays promis, parce qu'ils n'avaient pas adoré Dieu correctement. Même Moïse a échoué à ce sujet. Il n'est jamais entré dans le pays promis. Quand finalement ils y sont entrés, selon 1 Chronique 29, quand ils adoraient Dieu comme ils voulaient qu'on l'adore, ils étaient bénis. Et dans Actes 7, 42 et 43, il est dit que quand ils n'adoraient pas Dieu correctement, ils étaient punis. Et finalement, ils ont été dispersés et éparpillés dans le monde entier. À la venue de Jésus, quand il est né, on est venu l'adorer. La première chose qu'il a fait au début de son ministère, c'est d'aller à Jérusalem. Et le premier acte qu'il accomplit en venant à Jérusalem, dans Jean chapitre 2, c'est de se rendre au lieu d'adoration. Et là, il prend un fouet et donne un grand coup de balai dans ce lieu. Et après avoir tout remis en ordre au chapitre 2, et s'être occupé des adorateurs corrompus, au chapitre 4, il recherche de vrais adorateurs. L'adoration est toujours un sujet important. C'est le thème central de l'histoire de la rédemption. À la naissance de l'Église, regardez dans Philippiens 3:3, un verset que vous n'avez probablement jamais lu, avec ceci à l'esprit, une des affirmations les plus profondes sur l'adoration dans la Bible. Dans Philippiens 3:3, nous trouvons une définition de l'Église. La voici. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ, Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, Colombe. Oh, quelle affirmation! C'est une affirmation absolument merveilleuse de l'identité de l'Église. Je ne peux pas penser à une autre qui soit plus grande que celle-ci. Et qu'est-ce que l'Église? La circoncision, en d'autres termes, ce sont ceux qui sont identifiés de manière unique comme le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas une circoncision physique. Ils adorent Dieu dans leur esprit, et ils se réjouissent en Christ Jésus, et ne mettent pas leur confiance dans la chair. Et si vous regardez à l'avenir, regardez dans Apocalypse, chapitre 4, vous verrez que l'histoire se conclut dans l'adoration. Apocalypse 4:10. Ici, vous avez un aperçu de l'avenir, la gloire du Seigneur, qui vient installer son royaume. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles, et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. » Vous voyez, l'adoration est le thème du ciel. Chapitre 5, verset 14. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen », et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il règnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Chapitre 14, verset 6. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Or notez ceci, cet ange dit cela en tenant l'évangile éternel. Quel est le message éternel? Le message éternel est « Adorez Dieu ». C'est le message de l'Évangile éternel. Chapitre 15, verset 4. « Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer. » Chapitre 19, verset 4. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Maintenant, écoutez les 2 derniers passages, le verset 10 du chapitre 19. « Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange me dit « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent les témoignages de Jésus. Adore Dieu. » Soulignez-le de nouveau. Ça, mes amis, c'est l'Évangile éternel. C'est le message que Dieu doit donner d'éternité en éternité. Adorez-moi. Adorez-moi. C'est le thème de l'éternité. Le thème de l'histoire de la rédemption. Adorez le seul Dieu vivant et glorieux. Donc l'Écriture nous appelle à adorer. La destinée nous appelle à adorer. L'éternité nous appelle à adorer. Et si jamais quelqu'un est passé au travers, pensant qu'on n'a pas besoin d'adorer, puis-je vous en donner encore une? La 4e raison de l'importance de l'adoration, c'est que Christ l'a ordonné. Christ l'a ordonné. Dans Matthieu 4, 10, il a dit ceci qui résume tout. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Et il dit ça à Satan. Et en le disant ainsi, il inclut tous les êtres créés. Tous ont la responsabilité d'adorer Dieu. Adores-tu Dieu? Est-ce ton mode de vie? C'est ça qu'il demande. Si tu trouves difficile d'adorer le Seigneur quand tu viens le dimanche, ce n'est pas parce que la musique n'est pas bonne, ce n'est pas parce qu'il y a trop de bruit dans la salle quand tu arrives, ce n'est pas parce que c'était difficile de trouver où garer. Non, si tu ne peux pas adorer, ce n'est pas parce que tu as été distrait. Si tu ne peux pas adorer, c'est parce que tu n'es pas dans le courant, tu vois. Tout ce qui existe appelle à l'adoration. Tout, tout. L'Écriture appelle à l'adoration. La destinée appelle à l'adoration. L'éternité appelle à l'adoration. Christ appelle à l'adoration. Les anges ont dit « Adorez Dieu, adorez Dieu ». Mais ça ne peut pas se faire une fois par semaine. C'est un style de vie. Mais quand l'assemblée se réunit une fois par semaine, il y aura un jaillissement, un débordement de vraies louanges et d'appropriation du cœur. Parce que l'adoration à laquelle vous aurez eu du plaisir individuellement, quand elle sera portée dans la joie de l'assemblée, elle sera enrichie et optimisée. Et notre adoration devient d'autant plus glorieuse. Prions. Mais, écoutez un instant, pendant que vous êtes inclinés. Dans Hébreux, chapitre 11, se trouve une longue liste de héros de la foi. Il est dit, par la foi, ils ont fait ceci. Par la foi, ils ont fait cela. Vous connaissez le chapitre. Il commence avec Abel, et il est dit d'Abel que par la foi, il a offert le sacrifice correct. Il a adoré. Et après Abel, vient Hénoc dans la liste, et il est dit qu'Hénoc marchait avec Dieu. Abel a adoré, puis Hénoc a marché. Ensuite vient Noé, et il est dit que Noé a travaillé 120 ans pour bâtir un bateau. Et je pense qu'il y a une magnifique analogie là-dedans. D'abord, Abel est l'adoration, puis Hénoc est la marche, puis Noé est le travail. Et je crois vraiment que c'est ainsi qu'il faut voir la vie chrétienne. D'abord nous adorons, puis nous marchons. Et après, nous travaillons. Et c'est dans cet ordre, c'est l'ordre divin. Vous devez quelque part entrer dans ce courant, de sorte que votre vie soit une vie d'adoration. Père, nous te demandons en ce moment, ce matin, de faire une œuvre dans notre cœur. Le texte nous dit toujours que nous devons adorer, mais la vraie adoration vient par Jésus-Christ. S'il se trouve parmi nous ce matin des gens qui n'ont jamais adoré, parce qu'ils ne sont jamais entrés dans le cycle, qu'ils puissent le faire par la foi en Christ et devenir de vrais adorateurs. Parle à leur cœur, ô Dieu. Pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, qui se sentent incapables d'adorer, qui refusent d'adorer, qui luttent pour adorer, aide-nous à entrer dans le courant, à ne pas abandonner l'assemblée qui nous stimule, le temple vivant, une demeure de Dieu parmi les pierres vivantes de son peuple. Aide-nous à ne pas abandonner l'adoration de la vie de tous les jours, qui fait du bien, et qui partagent, car ce sont là les sacrifices auxquels tu prends plaisir. Veuille prendre plaisir à notre adoration, et faire que nos moments ensemble ne soient que des prolongations que le débordement de toute une vie d'adoration. Apprends-nous à être fidèles chaque dimanche. Apprends-nous à être fidèles chaque moment de veille pour adorer. Et puissions-nous répondre en connaissant cette plénitude de bénédiction qui descend sur celui qui a les mains innocentes et un cœur pur, qui appartient à la génération qui cherche Dieu.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.